7h50 à Paris. Frédéric Rivière, vous recevez Hakim El Karoui, essayiste et auteur de l'Islam, une religion française, chez Gallimard.
Bonjour Hakim El Karoui.
Bonjour.
Le président de la République réfléchit à une réorganisation de l'Islam en France. Il y travaille, a-t-il dit tout récemment, touche par touche. Vous faites partie des personnes qu'il consulte, qu'il écoute dans cette entreprise. Et vous dites que les islamistes ont gagné la bataille des idées en France. C'est évidemment un propos inquiétant. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est déjà peut-être trop tard?
Non, il n'est jamais trop tard en matière d'idées. En matière militaire, parfois oui. En matière d'idées, non, parce que le champ peut évoluer. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les islamistes sont en fait les seuls à mener la bataille. Et les musulmans leur ont laissé tout le champ du débat, des idées, de la théologie. Donc moi, ce que je dis, c'est que la question de l'organisation, elle est essentielle. La question de la bataille des idées, elle est encore plus importante.
Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a une immense majorité de la communauté musulmane de France qui est trop passive, finalement.
Alors, je dirais pas immense majorité, parce que les islamistes, c'est pas une toute petite minorité.
Ouais, on va parler de chiffres, effectivement.
Mais en tout cas, l'autre partie, ceux qui sont silencieux, ouais, ceux qui sont dans une dynamique d'intégration, ceux-là, moi, je les invite à reprendre leur religion en main.
Ouais, vous disiez dans un rapport de l'Institut Montaigne qu'il y a un groupe constitué d'environ 28% des musulmans qui ont adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République. Ça, c'est tout de même effectivement pas du tout une petite minorité. On peut, d'après vous, en menant cette bataille des idées, faire reculer cette proportion?
Oui, on peut, pour une raison simple, parce que comme il n'y a rien aujourd'hui, c'est très simple. Vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous tapez Islam, vous tapez Ramadan, vous tapez Halal. Vous allez tomber sur des sites salafistes, dans 90% ouais, des cas. Si vous mettez une offre alternative, si vous investissez, si vous avez des community managers, si vous avez des individus qui tout simplement vont fournir des contenus, bah, l'équilibre va se refaire assez vite, parce que tout le monde n'est pas salafiste. Oui. Par contre, quand vous voulez vous renseigner, vous tombez sur des contenus salafistes, bah forcément, vous êtes embarqué dans cette vision de l'islam.
Et vous avez estimé, pour parler chiffres encore un instant, dans un entretien récent avec le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, c'était dans le Figaro, qu'il y a en France 1 à 2% de musulmans potentiellement violents. Si on estime qu'il y a environ 6 millions de musulmans en France, ça fait entre 60 et 120 000 personnes. Alors évidemment, c'est 1 à 2%, mais ça fait tout de même du monde.
Ça fait tout de même du monde. Après, le chiffre, d'abord, ce chiffre, il n'est pas scientifique.
Oui, il est au doigt mouillé.
Voilà. Et puis, dans la violence, et vous voyez bien les parcours, y compris des djihadistes, il y en a beaucoup, et la plupart qui sont passés par la délinquance avant. Et malheureusement, si vous regardez qui compose, qui est dans les prisons françaises, on sait bien, même si évidemment on n'a pas de statistiques, qu'on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont probablement musulmans, ou en tout cas de culture musulmane.
La volonté du président de la République, dans cette réforme qu'il veut conduire, c'est d'en finir avec l'influence des pays étrangers, et des trois en particulier, l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Quel est aujourd'hui le rôle de ces pays dans l'islam en France?
Alors, c'est une question compliquée, l'influence des pays étrangers, parce que on vit avec l'idée que la montée du fondamentalisme est directement corrélée à l'influence des pays étrangers. Ben, en fait, c'est assez faux. Parce que les pays étrangers qui investissent, qui sont présents dans la gestion du culte en France, c'est le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Le Maroc et l'Algérie, on peut pas dire qu'ils envoient des imams, puisque ça passe largement par ça, des imams radicalisés, fondamentalistes, ultra-orthodoxes. Ça, c'est pas vrai. Les Turcs, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a aujourd'hui un parti islamiste qui est au pouvoir en Turquie, et par ailleurs, les Turcs utilisent la religion pour contrôler leur population d'origine. Le vrai problème des pays étrangers, c'est surtout l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite et le Qatar, eux, ils n'investissent pas dans le culte, ils investissent en amont, c'est-à-dire sur la télévision, sur Internet, etc. Et puis, en aval, dans l'action sociale et caritative. Donc, la question de l'influence des pays étrangers, c'est comment on bloque certains flux qui vont financer des activités islamistes. Et puis, de l'autre côté, comment on ne casse pas non plus complètement un système, sachant qu'on ne sait pas aujourd'hui remplacer les 300 imams étrangers, notamment algériens, marocains et turcs, qui aujourd'hui sont dans les mosquées françaises. Donc, il faut contrôler. À mon avis, il ne faut pas arrêter.
Comment peut-on aujourd'hui financer l'islam de France sans argent de l'étranger?
Alors on peut le faire sans argent de l'étranger et sans argent de l'État. parce que
ça, c'est une obligation, sans argent de l'État.
C'est une obligation. Vous savez, la laïcité à la française, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on a encore un bout de notre pays qui vit sous un concordat. L'État répare les églises, l'État intervient. Mais pourquoi on peut y arriver? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les musulmans sont riches. On pense toujours qu'ils sont pauvres, mais ils sont devenus riches, pas forcément personnellement. Le marché du halal, 5 milliards d'euros. Le marché du pèlerinage, 250 millions d'euros. Les dons, chaque année, on estime à 200-250 millions d'euros. Donc il faut prendre une petite partie, il faut trouver un système qui permet de collecter une petite partie de cet argent qui est produit au moment des consommations musulmanes, pour le mettre au service de l'intérêt général. Vous savez quel est le budget du CFCM?
Non.
30 000 euros. Ça fait 15 ans que ça dure. Donc le CFCM, en fait...
30 000 euros par an.
30 000 euros par an. Le CFCM n'existe pas. Moi, je pense qu'on peut lever au début 10 millions et ensuite 15, 20, 50 millions d'euros par an, avec donc des flux financiers pérennes, pas des dons, des flux financiers pérennes qui vont permettre de structurer, de financer la formation, de financer le salariat d'un certain nombre d'imams, de construire des mètres carrés de mosquées.
Dans vos propositions, il y a également la création d'un poste de grand imam de France, à la manière du grand rabbin chez les juifs. Quel serait son rôle et quelle serait son autorité?
Alors, son rôle, ça peut être un ou plusieurs. Moi, ce qui me frappe beaucoup quand on voit le débat sur l'islam, c'est qu'en fait, on ne parle jamais de religion. On parle toujours d'organisation, on parle toujours de politique. Qui c'est qui parle de religion? Les terroristes. Il n'y a que Daesh qui parle de religion, qui invoque le Coran. Je pense qu'on a besoin d'une autorité, d'une voix, c'est même pas une autorité, d'une voix qui parle de religion et qui parle à plusieurs publics.
Oui, mais qui aurait autorité, par exemple, pour dire la lecture que vous faites du Coran n'est pas la bonne?
Il y a des divisions. Vous savez, dans le monde du judaïsme, il y a beaucoup de divisions entre les juifs libéraux et les juifs ultra-orthodoxes. Il y a une gamme idéologique, religieuse, qui est extrêmement, extrêmement large. Bon, il y a à peu près la même chose chez les musulmans. Peut-être qu'il faut commencer, je vous dis, par nommer deux ou trois personnes. De toute façon, ils ne feront jamais complètement autorité. Ils seront toujours contestés. Mais ils auront voix au chapitre. Ils auront une bande passante dans les médias. Ils seront entendus par les musulmans et aussi, c'est très important, par les non-musulmans.
Est-ce qu'il faut plus de lieux de culte en France? Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée, avait dit, je crois que c'était en 2015, qu'il fallait en doubler le nombre.
Il en faut probablement plus, je ne sais pas, parce qu'il y en a 2500, de meilleure qualité, avec des conditions de sécurité, des conditions d'hygiène, et puis aussi, j'allais dire de prestige. Oui, probablement. Mais aujourd'hui, c'est plus le sujet essentiel.
Est-ce qu'un islam modéré, qui s'afficherait de manière plus visible en France, qui s'exprimerait plus haut, plus tolérant, peut séduire un public qui aujourd'hui cherche peut-être plus de l'identitaire que du religieux?
Oui, enfin, la question, c'est pas réfléchir au marketing de l'islam. On peut comprendre, c'est évident qu'aujourd'hui, l'attrait, non pas de l'islam, mais du fondamentalisme, parce que c'est ça qui intéresse les jeunes. Les jeunes qui sont salafistes, etc. Il a beaucoup à voir avec l'identité. Vous n'êtes pas complètement français, on vous le rappelle tous les matins. Vous n'êtes plus de votre pays d'origine ou de celui de vos parents. Mais finalement, qui vous êtes? Vous êtes musulman. Et vous êtes musulman, mais pas comme vos parents. Parce que vos parents, ils se sont fait humilier. Donc vous allez lever la tête, et vous allez lever la tête avec une religion, une idéologie, en fait, qui est forte et qui est en rupture. C'est ça le discours qu'on donne aux jeunes, et ça marche, c'est vrai, très très bien.
Merci Hakim El Karoui. Bonne journée.